On en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bienvenue à ton émission du midi, l'émission On en jase. Il va tourner midi une dans quelques instants. Merci d'être là. 418-971-1021. T'es où présentement, cher auditeur? Es-tu en vacances de la relâche avec tes enfants? Est-ce que tu es au travail? Est-ce que tu prends des congés cette semaine pour la relâche? Es-tu un enseignant ou une enseignante qui est en relâche scolaire? Bref, je veux savoir qui écoute et où vous êtes. Est-ce que tu as prévu, au froid qu'il fait aujourd'hui, aller aux Galeries de la Capitale, dans la meute, avec les enfants et les malades?
Oh mon Dieu! Ça prend du courage.
Ouais, mercredi annonce 4 degrés Celsius.
C'est une belle semaine pour être en relâche, oui. Par exemple. Jouer dehors, aller profiter de ça. Puis en plus, les érablières commencent, là.
Oui. Ouais.
Ça, c'est le fun. Ça, c'est bien excitant.
Ouais, ouais, ouais.
Hey, je me reprends. Mercredi annonce 5 degrés Celsius, alternance de soleil et nuages. C'est moins 10 à l'heure actuelle. Moins 23 avec le refroidissement éolien.
C'est froid, mais c'est beau.
Oui. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Moins 1 demain, généralement ensoleillé. Et à plus long terme, jeudi, c'est moins 5 avec 60% de possibilité d'averse de neige. Donc, aujourd'hui, c'est la journée frette. Puis après ça, vous allez avoir du beau temps pour la relâche scolaire. Mis à part le 418-971-101 pour nous dire « Tu nous écoutes de où? » Bien, blvd.fm, c'est la web radio. C'est aussi les meilleurs moments de l'émission qui vont se retrouver à cet endroit directement après l'émission. Boulevard 102.1, c'est l'application sur App Store, Google Play Store à télécharger, surtout en semaine de relâche. Tu peux nous écouter partout où tu vas au Québec. Doom, je te félicite, il est sur son tapis roulant en train de faire son exercice. Good job!
Bravo!
Moi, je m'en vais au gym à soir, je suis allé courir hier en pleine forme. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir voir notre belle face. Abonnez-vous à notre page YouTube, le caucus avec Antonine Iaccarini qui s'y retrouve à chaque jour. Et également, avec votre haut-parleur intelligent, vous faites seulement dire... Écoutez BLVD, c'est nos belles voix qui apparaissent à l'endroit où vous êtes. Isabelle qui nous écrit congé semaine prochaine et ensuite tous les lundis pour écouler des vacances non utilisées. Moi, donc ben le fun. Moi, on va être en congé jeudi et vendredi parce que j'ai une coupe de vacances pas utilisée aussi.
C'est... Alors, j'ai profité de la relâche. Je pensais que c'était des tournois d'hockey avec tes gars parce que ça achève. Là, on est dans le dernier
ouais,
blitz.
On en a eu un en fin de semaine qu'on a gagné.
Félicitations.
On se retrouve à Laval au championnat provincial le 29 mars. C'est un tournoi spécial de 4 contre 4 commandité par Best Buy. Fait que le 29 mars, on s'en va jouer sur la glace du Rocket de Laval.
Ça brasse des grosses affaires.
Avec notre équipe, c'était moment... très émouvant, là. Si vous êtes mon ami Facebook, allez voir, je le raconte rapidement. C'est un jeune de notre équipe qui malheureusement a perdu sa sœur de 16 ans il y a 2 semaines, qui était de retour dans notre équipe. Sa sœur qui souffrait d'une légère déficience intellectuelle et d'une maladie dégénérative, puis elle est morte subitement. Là. Elle était censée vivre plus longtemps. Donc, il était de retour dans notre équipe. Les gars l'ont accueilli de façon exceptionnelle. Carte pour lui souhaiter les sympathies. Ils ont dit « Tu fais jouer la musique dans la chambre. » Il a mis du Katy Perry à tue-tête pour la mémoire de sa sœur. Donc, les gars avec leur cellulaire allaient chercher les paroles de Katy Perry puis chantaient les tunes de Katy Perry. Ça a créé un moment inoubliable. Et en semi-finale, alors qu'on était en tir de barrage et que le prochain joueur qui marquait faisait gagner son équipe, moi et Vincent, l'autre entraîneur, on a dit « Sam, qui a un but depuis le début de l'année parce que je vais défendre. » On a dit « Sam, c'est ton moment, vas-y. » Il a marqué.
C'est lui qui a marqué.
Les parents pleuraient dans les estrades.
Wow.
Les gars, après avoir gagné la finale, se sont réjouis un petit 30 secondes. Et on dit, on s'en va au centre de la patinoire faire une minute de silence pour la sœur de Sam. Alors, ça a été un samedi soir très émotif.
C'est extraordinaire même pour ces jeunes-là, je trouve, de voir à quel point l'esprit d'équipe peut faire une différence, mais la cohésion autour de lui aussi.
Vraiment.
C'est des beaux supports pour des jeunes qui apprennent à être les adultes de demain.
Oui, alors hier, on en avait encore là, 2 à Tout le monde en parle, qui disaient à quel point le hockey était toxique, mauvais, puis qu'il ne devrait plus avoir de hockey dans nos écoles. Là. Ben le hockey, c'est aussi ça. C'est un groupe de chums qui se tiennent ensemble, puis qui sont ensemble dans les moments les plus plaisants, puis les moments les plus durs de la vie. C'est ce que j'ai vécu samedi soir. Les gars ont fait le party après chez JJ. Puis sur la bannière de champion, ils ont écrit un mot pour la sœur à Sam sur la bannière de champion. L'ont donné à Sam, puis ils ont dit « Va afficher ça chez vous, mon chum. Elle t'appartient, cette bannière-là. » C'est-tu pas beau, ça, comme cohésion?
Honnêtement, c'est extraordinaire. Puis de voir aussi que ces jeunes-là vont s'en souvenir toute leur vie. de cette fois-là où ils ont vécu leurs émotions aussi.
Mm-hmm. Tout le monde ensemble.
Tout ouais. le monde ensemble, puis que de se soutenir les uns des autres, ça fait vraiment une différence et qu'ils ont fait la différence dans la vie de leurs coéquipiers. Parce que je trouve que les gars ont des fois de la difficulté un peu à se parler, à s'entraider quand oui. ça va moins bien. Je trouve que tu leur as donné l'occasion de le vivre vraiment à fond. Puis évidemment, pour le jeune qui a marqué le but gagnant, tu sais, tu lui as offert une opportunité de... Ben, d'avoir un peu de bonheur aussi à travers l'épreuve qu'il vit. Donc, c'est vraiment un bravo, en tout cas.
Puis le soutien qui amène à cette victoire-là, ouais. puis le soutien qui amène à... Je pense que leur équipe ne sera plus jamais la même.
Ah non,
quand
il a marqué là, le but gagnant, là, il est parti directement dans la baie vitrée. Il a sauté dans la baie vitrée devant ses parents. Ses parents pleuraient. Les mères dans les estrades pleuraient. Et là, tu as vu, les boys, ils sautaient dessus, là, tu sais, puis... Ils se sont mis à crier avec lui. Et là, moi, je suis arrivé après. C'est la deuxième année que je le coach, Sam. Et là, j'ai dit, ah ouais, non, man. Il m'a serré dans ses bras. Puis il dit, ça, là, je l'ai scoré pour ma soeur. Mmh. Il dit, était avec moi. J'ai dit, oui, je sais. Elle est là. Elle est là aujourd'hui. On a vécu un moment spécial. On perdait 2-0 en finale contre une équipe beaucoup plus forte que nous. Normalement, l'équipe se serait découragée. Puis là, sur le banc, tout le monde a dit, hey, on n'oublie pas l'objectif. On gagne ça pour Sam. Puis les boys ont reparti à la guerre. Très fier de mon ado de 16 ans, Edouard, qui s'est, lui, emmené dans la célébration, qui a dit « Les gars, c'est l'heure de la minute de silence. » Puis qui a expliqué à l'autre équipe, bravo gouverneur 3 de Sainte-Foy, d'avoir participé à cette minute de silence aussi. Et là, les gars sont au centre de la glace à genoux. Puis c'est mon petit bonhomme de 16 ans qui d'habitude est gêné, qui est debout, puis qui explique pourquoi on fait une minute de silence. En bégayant un peu, mais c'est normal, c'était la première fois qu'il le faisait. Puis là, ben moi, j'étais un papa avec les yeux dans l'eau, je le regardais, puis je me disais « Wow! »
Extraordinaire histoire,
ouais,
vraiment.
C'était vraiment... On a vécu un samedi soir très spécial, fait que je félicite l'équipe des Bucks de Charlebourg, les parents qui ont été extraordinairement bienveillants aussi pour accueillir les parents de Sam là-dedans. Écoute, à la fin de la soirée, la mère à Sam m'a serré dans ses bras en pleurant en disant « Merci, c'est une soirée que j'oublierai jamais. »
Ça fait une différence pour eux aussi, parce que peut-être qu'ils avaient de la misère à jaser avec leur fils, puis on spécule, mais dans des situations comme ça, c'est un peu difficile d'établir une conversation parfois. Des jeunes vont se refermer, tout ça. Fait que de voir leurs jeunes être capables d'être entourés de cette manière-là, puis de le plus possible faire sortir un peu la peine, comme Antonine le disait, c'est
aussi,
gratifiant.
On oublie des fois, c'est quand t'es frère ou sœur d'un enfant malade, honnêtement, c'est sûr que t'es un. Je dis pas que je les connais pas, on parle pas d'eux, là. Mais des fois, ils ressentent une certaine mise de côté. Il y a moins de place pour leurs problèmes à eux ou à elles, etc. T'sais, non seulement ils ont rendu hommage à la sœur, mais en plus, lui, comme personne,
il a vécu
son moment aussi à lui.
Bien dit.
Vraiment. Ah non, donc belle histoire de hockey. Donc oui, il y en a qui parlent contre le hockey, puis oui, il y aura toujours des choses à améliorer dans tout, puis il y a des choses à améliorer dans le hockey. Il n'y a pas d'autre là-dessus, là, comme n'importe où.
Ben oui.
Mais samedi soir, on a vécu le beau d'un sport d'équipe, d'un sport collectif. Puis je tenais à le mentionner parce que c'est pas vrai que c'est juste croche qui se passe dans le hockey. Puis c'est pas vrai que juste des entraîneurs niaiseux. Puis c'est pas vrai que juste des parents niaiseux. Au contraire,
ça
on
dépend
l'a vu, là.
L'arrêt que ces entraîneurs-là prennent pour choisir la manière dont ils vont leader leur équipe, quel leader ils veulent être. Puis quand tu te mets à ne pas sous-estimer ce que tu peux avoir comme impact chez ces jeunes-là, pas juste au niveau du hockey, je pense que ça peut prendre beaucoup plus d'ampleur et de grandeur.
Ça a été exceptionnel, puis on est tellement contents pour Sam, puis on sait qu'on le revoit à soir à pratique, puis dimanche prochain à game, puis lui est heureux de réintégrer l'équipe, ça lui a fait un grand bien. Donc merci pour les commentaires là, par texto 418-971-101, des gens qui sont très touchés, je vous remercie infiniment. Avant qu'on parle de l'Iran, et on va en parler énormément dans cette émission, d'un dans le caucus avec Antonine Iaccarini, on va avoir Éric Ouellet, notre spécialiste en conflits militaires, qui sera là également. Gabriel Jugard de l'Institut économique de Montréal qui va venir nous parler du prix du pétrole parce que oui, c'est la conséquence qu'on va vivre de ce conflit-là. Et Luc La Liberté, expert en politique américaine. Pascal, que se passe-t-il dans notre actualité?
Tu l'as bien dit que j'allais éviter le conflit actuel que l'on vit juste parce qu'on en reparle dans les prochaines minutes. Mais sinon, il y a le procès pour diffamation du cardinal Ouellet qui est dans l'actualité parce qu'il veut rétablir son honneur. Il y a une femme qui alléguait avoir été agressée sexuellement par l'archevêque. C'est un archevêque très connu de Québec, là. Émérite de Québec, dans une action collective que ça s'est fait, tout cela. Et il y a eu ouverture d'un procès civil, donc en diffamation. Elle réclamait, cette femme-là, 100 000 Le cardinal, j'ai mal parlé de ma nouvelle, là. Le cardinal décide de laver sa réputation et c'est lui qui réclame 100 000 $ à une femme. Donc, cette femme-là qui allègue dans une action collective avoir été agressée sexuellement par l'ancien dignitaire de l'Église catholique. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avocats là-dedans et Maître Dominique Ménard était au Palais de justice de Montréal pour dire que ce caractère de connotation sexuelle n'est pas raisonnable et il faut prendre le dossier avec beaucoup d'importance. C'est un procès civil qui s'est ouvert aujourd'hui, donc intenté par Marc Ouellet. Et voilà des sous, 100 000 $ réclamés à Pamela Grolot, qui est une ancienne agente de pastorale au diocèse de Québec. Claude Dubois, on a des nouvelles de Claude Dubois, qui est opéré pour un cancer des cordes vocales. Alors, suite de son annonce et en février dernier. Donc, on a appris que l'auteur, compositeur, interprète de 78 ans va bien dans les circonstances, mais quand même, il traite son cancer. Et nouvelle qui semble tout à fait banale quand tu la lis vite comme ça à travers tout ce qui est houleux dans l'actualité internationale, mais on en parle depuis longtemps. Puis quand on est dedans, bien, ça devient hautement important. Puis quand on n'est pas dedans, bien, on oublie un peu. Et le printemps, souvent, ça amène ce discours-là et cet enjeu-là à nouveau sur la place publique. C'est le fait de créer des cartes de zones inondables dans Québec, donc dans la province. Des MRC qui refusent de les créer, ces cartes-là, de zones inondables. Et on est sans nouvelles ententes avec Québec. Le nouveau cadre réglementaire est entré en vigueur hier et va devoir s'appuyer sur les anciennes cartographies dans les secteurs qui n'ont aucune entente de conclu. Puis ça, du côté de Chaudière-Appalaches, il y a bien des gens qui en ont souffert. Entre autres, depuis 2021, on a eu d'inondations assez majeures, ce qui a fait en sorte qu'il y a des gens qui avaient eu l'autorisation de se construire aussi dans une zone qui était jugée inondable. Puis au niveau des compagnies d'assurance et tout ça, ça devient de plus en plus complexe, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit beaucoup s'attarder au Québec.
C'est tout?
Tu m'as demandé des manchettes?
Ben oui! Parfait, excellent! Je pensais qu'il y en avait une petite dernière, c'est moi qui n'étais pas assez attentif. On passe au caucus!
Le caucus. Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iacarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Antonin Iacarini, on va régler une chose. On va tout de suite faire la promotion du fait que tu es dans le retour à la place de Denis Gravel pour les 4 prochains jours de lundi à jeudi de 14h à 18h. Donc, ce sera un retour avec Antonin, Audrey et Véro.
Alors, c'est excitant, ça. Ça va être le fun de vous écouter.
On va être un bon trio. Tu demandais aux gens qu'est-ce qu'ils font de leur semaine de relâche. Moi, c'est ça que je fais de ma semaine de relâche. Je travaille plus et je suis très contente de ça. Et
à la co-animation, voilà. Ça ne sera pas juste dans des analyses politiques.
Non. On va parler d'autre chose que de politique. Car j'en suis capable, bien sûr.
En passant, hier, c'est les 50 ans de mon frère. On a fêté ça dans un resto avec ses amis d'université, ses amis d'enfance, puis la famille. Et il y a plein de gens qui m'ont dit « Hey, tu diras, Antonine, que je les aime, ces analyses. » Passe le commentaire.
J'en entends beaucoup parler aussi. Ça fait du bien, puis on parle souvent à quel point en taux, puis là, tu nous as pas payé pour dire ça, là. T'es capable de nuances, puis ça fait du bien dans le paysage de nouvelles, dans le paysage politique aussi en ce moment. Alors voilà, on t'a lancé les fleurs, il n'y a pas de
merci.
Peau.
Merci.
Dans un petit breaking news, il y a Donald Trump qui fait présentement un point de presse et qui a mentionné ne pas... refuse d'exclure l'envoi de troupes au sol. Mm-hmm. Donc, le conflit pourrait justement prendre une ampleur encore plus grande en Iran. Qu'est-ce que tu retiens de ce week-end-là, là, des attaques des samedis, puis évidemment, là, ça a pris toute la place dans l'actualité.
Oui, grosse fin de semaine au Moyen-Orient. Tu demandais aux gens qu'est-ce qu'ils faisaient de leur fin de semaine, puis c'était de leur semaine de relâche. En tout cas, du côté du Moyen-Orient, ça nous tient occupés sur l'actualité. Hein. Des fois, ça ralentit au niveau politique localement. Puis,
j'ai la blague tantôt que moi, en tant qu'animateur de radio, j'adore Donald Trump parce qu'une semaine de relâche, il y a moins de choses dans l'actualité. Il décide d'attaquer l'Iran. Quand on est revenu du temps des fêtes, il y a moins de choses dans l'actualité. Il avait décidé d'enlever Nicolas Maduro. Donc, Trump me fait travailler.
Mais peut-être qu'il veut le maximum de lumière médiatique. Puis il se dit, bon, je vais choisir des petits moments plus... Non, je pense pas. D'après moi, ça n'a pas de lien avec ça. Donc, escalade majeure en fin de semaine avec les frappes américaines et israéliennes sur le territoire iranien. C'est une région qui est connue pour avoir des tensions de manière constante depuis des décennies. Là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, des attaques sur les sites militaires, sur des infrastructures stratégiques. Notamment, on parle, puis ça nous est rapporté de l'Iran, du site nucléaire Natanz, qui, évidemment, parce qu'on sait que les Iraniens ont un programme nucléaire. C'est une des sources de tensions dans la région, mais sur la scène internationale aussi. Pour ceux qui connaissent moins comment ça fonctionne, la vie démocratique en Iran, c'est une théocratie. Donc, c'est une dictature dans laquelle les gens, les citoyens n'ont pas grand-chose à dire. C'est une dictature religieuse. Et effectivement, le fait d'avoir un régime qui travaille à avoir la bombe nucléaire, disons, c'est une idée qui ne plaît pas à grand monde sur la scène internationale, d'avoir un pays comme celui-là, avec un régime comme celui-là, qui a l'arme nucléaire, et c'est une des principales sources de tension entre l'Iran, les voisins et les États-Unis depuis des années. Samedi, quand on a vu là, que les frappes commençaient, bien évidemment, on surveillait s'il allait réussir à tuer le leader suprême, Khamenei. Et l'annonce est survenue en fin d'après-midi que M. Khamenei était décédé et qu'il y aurait un nouveau leader qui serait nommé. Moi, ça m'a fait penser au début de la guerre en Palestine, quand les Israéliens se sont mis à tuer les leaders du Hamas, un après l'autre. Vous rappelez-vous de l'histoire des pagettes, notamment, qui explosaient? Donc, je me doute qu'à partir du moment, dès qu'ils vont nommer un nouveau leader, ce nouveau leader-là va devenir une cible pour la suite des choses.
Oui, là, il y en a même un trio, hein? Le président Massoud Pezeshkian, le chef du pouvoir judiciaire Gulmenchan Monchhe-Eljay et le dignitaire religieux Alizera Arafi. Est-ce qu'il y a des chances que ça négocie avec les États-Unis, ce trio-là?
J'ai pas l'impression qu'on est dans un contexte où on va arriver à des négociations immédiatement, surtout quand on voit le président américain qui dit qu'il n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol. Il faut comprendre que faire des frappes aériennes et envoyer des soldats sur le sol, c'est deux ballpark de guerre complètement différent.
Oui, exactement. Quand tu envoies des soldats au sol, normalement, là, tu es vraiment dans un état de guerre. Oui. Sinon, frappe aérienne, tu es plus en mode, puis là, tu sais, ça va paraître...
opération militaire, mais pas guerre.
Quasiment plus en mode aussi préventif où tu attaques certains sites militaires, là, quoi qu'on a vu qu'une école a été attaquée.
Oui, bien là, il y a des bavures, ça peut arriver, mais... c'est ça. C'est la différence entre être en guerre avec un pays ou faire une opération militaire ciblée visant à affaiblir un régime. Là, on veut vraiment aller jusqu'au bout, remplacer le régime. Donc là, c'est là que...
ça se remplace-tu, cette dictature-là?
Bien, on le voit qu'on peut remplacer des dictatures. On l'a vu dans les dernières années. Les Américains sont les porte-étendards de ça depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que ça met en place des démocraties qui sont durables? Ça, c'est la question qui tue. Et de façon très générale, la réponse est non. Donc, c'est bien difficile de faire un changement vers une démocratie en partant d'une dictature et sans rester là, de manière constante. Vous savez, dès que les Américains, dès que les Alliés sont partis de l'Afghanistan, qu'est-ce qui s'est passé?
Les talibans ont pris le contrôle.
Les talibans sont venus. Par contre, l'Iran, ce n'est pas l'Afghanistan. Bien que c'est très difficile de mettre des régimes démocratiques qui fonctionnent et aussi d'éviter toutes sortes de débordements, de terrorisme, les milices, les moudjahidines. Dans cette région-là, quand il y a un vide qui s'installe, souvent il va y avoir même des gens de plusieurs autres pays avec le soutien de certains groupes comme le Hezbollah, le Hamas... ou d'autres groupes islamistes qui vont venir se battre. Les moudjahidines, ça veut dire que ce sont des soldats qui se battent là, pour leur religion, etc. Par contre, l'Iran, c'est différent. Parce que c'est un pays où c'est un pays qui est musulman, mais c'est pas des sunnites comme les autres pays que j'ai nommés, si on pense à la Syrie, par exemple, ou à l'Irak. C'est des chiites, c'est un peu différent. Quand vous voyez des actes terroristes un peu partout dans le monde, généralement, c'est plutôt de mouvances sunnites. C'est pas des chiites qui vont nécessairement faire des attentats. Je veux pas exclure que ça puisse arriver.
Mais ils sont moins violents. Dictateur a été très violent envers le peuple. Mais les Iraniens sont moins violents?
Je dirais pas que c'est moins violent, parce qu'il y a quelqu'un qui va nous envoyer des exemples.
Le dictateur a tué des centaines de milliers
Absolument.
De personnes.
Absolument. Et la religion chiite, c'est spécial aussi. Si vous vous intéressez, vous pouvez aller voir. Il y a toutes sortes de contenus, évidemment, sur Internet que vous pouvez aller voir. Mais demeure que le terrorisme international est dominé beaucoup plus par une autre mouvance. Et surtout, c'est que l'Iran, c'est un pays, tu sais, contrairement à l'Afghanistan, où c'était quasiment des tribus avec des chefs de tribus. Tu sais, on n'est pas dans le même environnement que l'Iran, qui est un pays hautement éduqué, dans lesquels il y avait des élites intellectuelles, de nombreuses universités, qui, avant l'arrivée de ce régime-là, avait une vie politique et sociale beaucoup plus développée, beaucoup plus avancée qu'un pays comme l'Afghanistan, par exemple.
Et d'ailleurs, il y a eu des manifestations monstres, justement, au retour des fêtes au mois de janvier pour aller chercher plus de liberté démocratique au sein du peuple.
Manifestations qui sont réprimées de manière extrêmement violente. Et on sait là, qu'il y a beaucoup de gens qui ont été tués à la suite d'avoir parlé contre le régime.
Et là, la parenthèse à faire, ouais. Parce qu'il y en a qui se réjouissaient de la mort du grand chef, là, mm-hmm. disons-le comme ça, sauf que Donald Trump qui allègue et qui demande à ce que le peuple se révolte et reprenne le contrôle, ça ne se fait pas comme ça. Là. Ils sont organisés au sein même du pays. Là.
Mais ils ont besoin, si les Américains et les Israéliens veulent changer le régime à la tête du pays, ils ont besoin que le peuple embarque jusqu'à un certain point, que l'armée aussi change de bord. Tu sais, il y a tous ces éléments-là qu'on essaie de mettre en place présentement. Est-ce qu'on doit se réjouir ou non de ce qui s'est passé? Mais c'est sûr que c'est un régime épouvantable qui vient de tomber.
Ben, je pense qu'on va toujours se réjouir de la mort de quelqu'un qui a tué des centaines de milliers d'innocents. Là.
Mais de là à penser que ça va devenir un paradis démocratique la semaine prochaine et que les femmes seront libérées, attention, là, ça dépend d'un paquet de facteurs différents. Un des facteurs dont je voulais parler, c'est qu'il y a une diaspora iranienne importante à travers le monde. Il y a des intellectuels, beaucoup des élites, justement, qui ont fui dans les années 80-90. Et il faut comprendre, tantôt je disais que c'est très différent de l'Afghanistan. Les Iraniens sont très éduqués. Okay, c'est des gens qui sont très diplômés et tout particulièrement la diaspora. Si on regarde les données, les Iraniens, les gens d'origine iranienne qui vivent dans les pays d'Europe ou en Amérique sont généralement beaucoup plus diplômés et éduqués que la population d'accueil. Donc, s'il y avait vraiment un mouvement vers une démocratie très sérieux et que la guerre ne durait pas là, pendant des années, parce que là, c'est sûr que si c'est un pays qui reste en guerre pendant des années, ce n'est pas très intéressant, est-ce qu'on pourrait voir un certain retour vers la maison de cette diaspora iranienne. Et là, des gens qui ont des compétences importantes, qui sont des gens qui sont très éduqués, des ingénieurs, des avocats, des gens qui ont une connaissance en politique publique et qui pourraient venir enrichir ce nouveau régime-là. Bon, là, je rêve un peu, mais ce serait un scénario dans lequel il y aurait vraiment des meilleures chances d'avoir un régime démocratique durable, contrairement à l'Afghanistan, qui, honnêtement, c'est même pas comparable. T'sais, on peut pas comparer l'Irak, l'Afghanistan et l'Iran. Donc, évidemment, ça va dépendre de ce qui se passe dans les prochains mois. Le Canada a réagi assez positivement.
Oui, à l'attaque de Donald Trump envers l'Iran.
Ça a été critiqué partiellement.
C'est sûr, mais peu importe la position que Marconi aurait prise, elle aurait été critiquée. Sensible. Donc, je pense qu'il a choisi un peu la moins pire des deux et de choisir aussi ses combats, parce qu'on ne peut pas toujours être en confrontation avec M. Trump. Et c'est vrai que c'est un régime qui est difficile à défendre, là, ce qui se passait en Iran depuis 1979.
Ouais, t'étais mieux d'appuyer Trump que d'appuyer un dictateur qui a tué des centaines de milliers d'innocents. Fait que si tu fais juste regarder ça dans la balance, tu dis « bon, ben je vais appuyer Trump ».
C'est qu'il aurait voulu que Marconi, ben, pour ceux qui critiquent, ait une position un petit peu moins claire.
C'est ça.
Plus pacifiste, plus « je regarde ce qui se passe, nous, on a nos alliés, mais pour l'instant, on se prononce pas ».
Non, il est allé assez clairement.
Mais il est allé assez clairement.
Puis sans surprise, là, Pierre Poilievre, même chose, appuie sans réserve ce qui s'est passé. On va voir, selon comment les choses vont tourner dans les prochaines semaines, peut-être que la réaction de M. Carney va moins bien vieillir. On verra comment se déroulent. Il y a des manifestations aussi là-bas, des gens qui défendent le régime. Bon, écoutez, c'est sûr que c'est difficile de croire que ça célèbre tant que ça dans les chaumières que Khamenei soit décédé, mais évidemment, ça fait partie du portrait. Donc, l'autre question qu'on se pose, c'est est-ce que ça pourrait donner lieu dans les prochaines années à du terrorisme international? Parce que c'est ce qui s'est passé dans plusieurs à la suite de plusieurs opérations comme celle-là dans d'autres pays.
Il y a eu un attentat au Texas cette fin de semaine qui a fait 2 morts et 14 blessés. On va en parler justement tout à l'heure avec Éric Ouellet.
Donc, ça aussi, ça reste à surveiller. Quand on crée de l'instabilité dans la région, ça se répercute parfois en terrorisme. Parce que la guerre a changé aussi, tu vas en parler avec ton invité, mais la guerre a changé. Hein. C'est plus deux pays qui s'affrontent, deux armées l'une contre l'autre. Ça fonctionne beaucoup aussi par terrorisme. Et ça peut arriver de n'importe où, à n'importe quel moment.
Exactement,
c'est un petit peu plus dur à contrôler.
Et d'ailleurs, l'Iran qui finance des franges terroristes, là, notamment le Hezbollah. Là, donc, c'est pour ça, justement, que la guerre a vraiment changé.
Puis en terminant, juste dernière réaction qui est importante à surveiller, c'est les marchés, puisque c'est une région pétrolière, évidemment, avec des carrefours de commerce international importants. Donc, les marchés ont évidemment réagi ce matin. On surveillait un peu comment le marché boursier allait se comporter. Pas mal de choses qui ont descendu. Mais le prix de l'essence, vous allez voir, risque évidemment de monter.
Le baril de Brent a énormément monté. Puis, tu sais, c'est des prix qui sont fixes. Ça veut dire que nous, au Moyen-Orient, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde, la répercussion première, ça va être sur le pétrole.
Absolument.
Puis, dans tout ce qui est le canal de Suez avec le passage d'Hormuz, là, c'est là où il y a 20% du pétrole mondial qui passe. Puis, on a intercepté des bateaux ou encore on leur a demandé de faire demi-tour. Fait que ce qu'Antonine dit, c'est pas mal notre préoccupation économique principale en ce moment.
Absolument. Puis, ce qui a remonté aussi, c'est l'or, parce que dans des moments d'instabilité, bien, l'or devient une valeur refuge.
Exactement.
Donc, les marchés qui ont fortement réagi là, ce matin aussi.
On va parler justement de ces marchés-là avec Gabriel Giguère aux alentours de 12h50, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Vous êtes dans le caucus avec Antonine Iaccarini, caucus qui se retrouve sur notre page YouTube à chaque jour. Antonine, on va passer à notre démocratie parce qu'il y avait le premier débat. Je vais appeler ça une conversation entre Bernard Drinville et Christine Fréchette, où l'animateur Dimitri Soudas, ben, il leur a passé la parole, puis ils ont jasé de plein d'affaires sur plein de thèmes. Pas de grandes attaques, non. Mais t'as quand même retenu des moments qui sont intéressants.
Oui, parce qu'en fait, mes attentes n'étaient pas très élevées envers ce débat que je mets entre guillemets, là, qui est plus une discussion. On en voit de plus en plus en passant des débats qui, en fait, c'est tout le monde se passe la parole à tour de rôle parce qu'il y a une espèce d'allergie aussi de la part des gens à la
Attends,
joute.
Je vais faire une invitation. Ah, qu'est-ce que tu dis là?
Répète-moi
ça!
C'est ça. Puis l'espèce de cacophonie.
Yacarini, t'as pas raté!
Ça n'a pas la cote en ce moment.
C'est assez
ce genre
plate, d'attitude. On va se le dire.
Donc, on a beaucoup ça. Moi, j'en anime des débats des fois, puis c'est très à tour de rôle maintenant. Puis on donne des droits de réplique, mais il y a moins de débats ouverts comme il y en avait un peu auparavant. Et là, c'était la commission relève, donc l'aile jeunesse de la CAQ qui organisait cet exercice-là, animé par Dimitri Soudas, qui gracieusement là, animait la discussion. Puis, bon, premièrement, sur le format, c'était ordinaire, dans le sens que c'est jamais super extraordinaire du virtuel encore. Puis je trouve que depuis la pandémie, on ne s'est pas beaucoup amélioré.
Non.
Je vois, mettons, les gens en entrevue par Zoom à la télé, puis je me dis, Colin,
Bernard a mis son petit drapeau du Québec à côté de sa plante.
Oui.
Puis Christine, elle avait mis sa petite pancarte, course à la chefferie, de la Coalition Avenir Québec devant l'escalier.
Puis
Dimitri avait un fond d'écran que c'était la Coalition Avenir Québec.
Mais l'animateur était à Montréal, donc je ne sais pas s'il était à la permanence du parti. Puis les deux autres semblaient être chez eux ou dans leur bureau, je ne sais pas.
Bon, il y avait l'air chez eux.
Puis ça, c'est l'affaire avec les affaires en virtuel puis les entrevues en virtuel, c'est qu'on se demande tout le temps les gens sont où. Puis pendant que je me demande son haut, je n'écoute pas du tout ce qu'il dit.
Pendant que tu regardes le fond en arrière dans leur bibliothèque, parce qu'il y a eu une grosse mode aussi de qu'est-ce qu'on met dans la bibliothèque pour avoir l'air d'un érudit.
Exact.
Là.
le personne n'avait de bibliothèque en arrière de soi.
Non,
fait que ça,
c'est
bravo.
Ça.
Les caméras n'étaient pas en dessous du nez, parce que moi, c'est une autre affaire avec les zooms, c'est que les gens mettent leur caméra sur le bureau. Puis là, on a une belle vue sur double menton. Tout le monde a un double menton quand tu mets ta caméra en bas. Puis on a vue sur les narines.
Ouais, puis moi, je me suis même demandé, écoute, Bernard, y aurait-tu osé tirer un petit peu plus le drapeau du Québec? Il me semble qu'il est caché.
Mais je trouvais que leur setup était tout passable.
Mais là, en même temps, Bernard est plus souverainiste. Fait qu'il l'a mis un petit peu plus caché dans le coin. Je me dis, c'est une stratégie.
Peut-être.
J'ai trop analysé.
T'as suranalysé.
Mais
qui fait qu'on ne retient pas ce qu'ils disent.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Mais tout ça pour dire que toi, t'as retenu ce qu'ils disent.
Oui.
Et le premier extrait que tu veux nous faire entendre, c'est Bernard Drinville qui a marqué un bon coup en parlant de ses réalisations qu'il a fait pour la jeunesse.
Écoutez, vous nous avez habitués ces dernières années à brasser la cage. Vous avez amené beaucoup d'idées neuves au sein de notre parti. C'est vous notamment qui avez suggéré que l'on mette fin aux cellulaires dans les écoles. Je vous ai entendu et les cellulaires sont maintenant interdits avec des résultats très, très positifs pour nos élèves. Vous avez également souhaité plus de civisme dans les écoles. Alors, j'ai introduit le vouvoiement, monsieur, madame. Vous avez aussi, à un moment donné, dénoncé les dérives du mouvement syndical. J'étais à votre congrès pour répondre à ce vœu. Alors, je vous ai entendu. J'ai mis en œuvre certaines des réformes que vous avez souhaitées.
C'est très concret.
C'est un bon point.
J'adore.
Oui, parce qu'il fait le lien entre ses accomplissements et les demandes de la commission relève des jeunes de la CAQ qui avait mis ça dans l'espace public. Bon, souvent, en passant, c'est arrangé avec le gars des vues, cette affaire-là.
Mais là, il s'est super bien adapté aussi au public cible.
Absolument.
Qui sont les jeunes. Donc, c'était très, 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 très bon. Point fort, je pense, que tu as souligné auprès de Christine Fréchette, c'est la façon qu'elle s'est débrouillée avec le dossier de l'immigration.
Oui.
Parce que là, c'est présentement celui au plus fort de la poche qui va en promettre le plus.
Oui, absolument.
Et je sens qu'elle n'entre pas, elle, dans ce débat-là. Elle prend le débat de façon très organisée pour justement pas qu'il y ait de débordement. Et j'aime beaucoup son approche.
Bien, c'est son style aussi d'être... Elle est moins polarisante un
oui.
petit peu. Puis des fois, ses adversaires peuvent lui reprocher d'être beige. Mais moi, je pense que la beigitude en ce moment n'est pas nécessairement vue comme un point négatif.
Bien, Mark Carney, il se promène pas
Charles
avec
Milliard,
le veston rouge écarlate. Là.
Non, c'est ça. Charles Milliard aux libéraux. Tu sais, il y a comme une espèce de... On a des gens un petit peu plus propres, là, un petit peu moins polarisants. Fait que, en tout cas, je suis pas sûre que c'est vraiment un désavantage pour elle. Puis en matière d'immigration, c'est que Mme Fréchette veut se positionner comme celle qui est économique aussi. Donc, oui, l'identité, mais l'économie. Donc, quand elle présente des politiques en immigration, on sait que l'immigration, c'est aussi hautement économique. La mobilisation qu'on a vue dans les dernières semaines pour le PEC, ça a parti de quoi? Du secteur des affaires. Mmh. Le secteur des affaires pousse toujours pour plus d'immigration parce qu'on veut de la main-d'œuvre. Donc, on sent qu'elle veut garder cet équilibre-là.
Je te propose qu'on écoute autant l'extrait économique que l'extrait par la suite où elle parle d'une réalisation qu'elle a fait en immigration.
Oui, merci. Bien, je rejoins Bernard quant à l'importance de gérer l'immigration. Il faut faire en sorte de réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires. On le sait, notre capacité, cette immigration.
Alors, c'était l'extrait économique. Maintenant, on écoute une bonne réalisation qu'elle a fait en immigration. Et honnêtement, je n'étais pas au courant de ça. Donc, j'ai trouvé
elle
ça très intéressant qu'elle le mentionne.
Dans les mesures concrètes qu'il faut mettre en place, ben moi, d'une part, je voudrais vous rappeler que lorsque j'étais à l'immigration, j'ai fait en sorte d'intégrer pour la première fois des exigences de connaissance du français dans nos programmes d'immigration qui donnent accès à la résidence permanente. Ça, pour moi, c'était non négociable, c'était un incontournable. Alors, on a établi des exigences à la fois pour le français écrit, pour le français à l'oral, ce qui a changé complètement la dynamique de plusieurs de nos programmes d'immigration, mais c'est important. C'est important de le faire, c'est important de le maintenir parce que c'est ce qui va nous permettre de grandir comme nation.
Côté économique, elle est directement sur la cible des régions qui sont de « Hey, laissez-nous gérer ça par région parce qu'il y a certaines places qu'on a plus besoin que d'autres. » Donc ça, je trouve ça très pertinent puis elle l'amène d'une façon très structurée et rigoureuse. Côté français en immigration, ben moi, je trouve qu'elle vient marquer des points là-dessus. Et je m'explique, pendant qu'un Bernard Drainville, lui, est plus catégorique en disant « T'as un signe religieux, toi, dehors de nos écoles, t'as ci, dehors », elle parle d'inclusion.
Oui, exactement. Puis je pense que les gens ne savent pas beaucoup ce qu'elle a fait quand elle était au ministère de l'Immigration.
C'est vrai.
Et c'est un peu aussi une victoire, parce que des fois, le fait qu'on n'en parle pas, ben, c'est parce qu'il n'y a pas non plus de scandale nécessairement ou de chèque.
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles?
Peut-être, en quelque sorte. Tu sais, dans le premier mandat de la CAQ, ça avait brassé beaucoup en immigration.
Ouais.
Donc, elle a été un peu plus apaisante dans le dossier.
On termine le débat avec Dimitri Soudas qui a demandé aux deux candidats de parler d'une qualité de l'autre. Christine Fréchette, Antonine, rappelle-moi ce qu'elle a dit.
Christine Fréchette a dit que Bernard Drainville est très investi. C'est quelqu'un qui se donne à 100%. Je pense que c'est vrai.
Oui,
mais, que...
mais c'est quand même une qualité boboche.
C'est
je m'explique.
Ouais.
Je peux être full investi dans mon travail, mais si je ne suis pas bon, à un moment donné, mes patrons vont dire bravo pour l'investissement.
Ben,
mais
ça devient
fini.
Un défaut même. T'es trop investi, t'es pas
Est-ce
bon.
Est-ce que c'est un compliment de finalement
ben, j'ai trouvé que ça avait l'air d'un compliment. Tandis que Bernard Drainville, le mieux joué, selon moi, à la Bernard Drainville avec un peu d'humour, mais j'ai adoré la qualité qu'il a trouvée pour Christine Fréchette.
Christine chante très bien. Pas autant que moi, mais quand même
ça, c'est la
très, très bien. On a chanté ensemble, vous allez comprendre la blague. Un jour, prochainement, vous allez voir, on a chanté ensemble, Christine et moi.
Je l'adore.
Alors, je fais un peu d'humour, là, mais sur très sérieusement, c'est une femme studieuse, Christine. elle a pris cette nouvelle mission qui lui a été confiée avec le départ de Pierre Fitzgibbon, et puis elle a piloté ses dossiers sans faire d'erreur. Donc, je pense que c'est une femme studieuse, c'est une femme qui est travaillante aussi, et donc ça me fera très, très, très plaisir de l'avoir dans mon équipe, et elle occupera un poste très important dans mon gouvernement.
Bon, évidemment, il termine en essayant de se mettre à l'avant-plan, mais je trouve que la qualité est véridique, parce que c'est vrai que récupérer les ministères de Pierre Fitzgibbon, c'était pas une mince affaire.
C'est un bon point, mais moi, je trouve aussi que c'est un peu un compliment.
Ah, ouais, je le voyais pas de même, explique-moi.
Parce que d'un côté, Christine Fréchette, ce qu'elle fait avec Bernard Drainville, c'est qu'elle met de l'avant, tu sais, il est bien investi, là, tu sais, comme...
Ouais.
Puis le sous-texte, c'est il va être baissé tout le temps. Hein? Mmh. C'est un émotif.
En effet.
Donc, elle a amené les gens vers le petit côté, des fois, qui peut faire, disons, jaser négativement de M. Drainville. Et Bernard Drainville fait la même chose. Parce que ce que l'équipe de Bernard Drainville spin sur Christine Fréchette, c'est qu'elle est hésitante, puis ça y prend donc du temps, puis qu'elle consulte.
Vrai.
Fait que de dire qu'elle est studieuse, dans le fond, ils essaient d'amener les gens vers cette espèce de truc plus négatif qui est qu'elle peut, des fois, tergiverser très, très longtemps. Donc, les deux, finalement, je trouve, ont fait un petit peu des compliments.
Ah, j'avais pas pensé à ça. Merci de m'éclairer. Rapidement, une petite minute, Antonine. Deux départs en politique. Ouais. Vincent Marissal qui dit « Oh, la politique, c'est essoufflant. »
Oui.
« Ah, j'avais à questionner le gouvernement.
Ouais. »
Oh, je
tous les jours, fallait que je trouve des lignes.
Des lignes. Ah, je t'ai épuisé. Pense pas au camionneur qui est en train de faire de la route puis au gars dans une shop. Hey,
ça n'a jamais
lui
été sa force,
non, lui,
à Vincent Marissal.
Lui, il est épuisé. Il est épuisé parce que le PQ, il a dit, sais-tu quoi, dans Rosemont, on va continuer avec le comédien Pierre-Luc Briand, puis il reste dans la maison, toi, Vincent.
Moi, j'ai l'impression que le PQ s'est dit, présenter un ex-député de Québec solidaire, est-ce que les avantages dépassent vraiment les inconvénients? Je pense que, tu sais, M. Marissal, il faut le dire, on avait l'impression qu'elle allait se présenter pour le PQ puis que c'était fait, mais c'est qu'en fait, il y a un employé de QS qui a vu dans l'agenda de M. Marissal qui avait rendez-vous avec Paul-Saint-Pierre Plamondon, et c'est là que ça a sorti. Donc, il avait été un peu pris de court avec tout ça.
Exactement.
Il a fait sa tournée d'entrevue, il a planté sa formation politique, puis ça a fait très mal à
ça,
Québec.
Ça, tu veux pas de ça. L'autre départ, c'est Caroline Proulx. Je me permets de refaire joindre un extrait de 30 secondes qui, justement, expliquait tout comment ça a pu venir jouer émotivement sur elle la mort tragique de sa mère par rapport à son travail de députée.
Puis le dernier événement, c'est l'inauguration d'une maison des aînés à Gatineau avec le premier ministre.
Ah ouais, OK. Moi, j'en ai entendu parler.
Ouais. Et là, je visite les aînés. Et là, c'est une intensité à 9 sur 10. Je suis dans l'ascenseur, Paul, puis je suis tellement gênée puis honteuse. Je donne des coups de pied dans l'ascenseur tellement je suis fâchée après moi de ne pas être capable
de composer avec...
De maîtriser ça, tu sais, je veux dire, j'ai une job à faire, là, tu sais.
On le rappelle, elle a retrouvé un 31 décembre, sa mère inerte en bas d'un escalier qu'elle avait déboulé. C'est horrible comme façon de voir sa mère. Et puis, ça l'a amené à devoir quitter le ministère des aînés parce qu'elle n'était pas capable de s'occuper des personnes aînées. On l'entend dans cet extrait-là. Donc, je souhaite énormément de courage à Caroline Proulx. J'y envoie énormément d'ondes positives. On comprend pleinement sa décision.
Absolument. Puis, tu sais, je sors un peu juste du cas de Caroline Proulx. Évidemment, on comprend sa décision. Mais quand même, je trouve ça difficile pour les deux candidats à la chefferie en ce moment de voir des gens qui, avant la fin de la course, décident d'annoncer comme ça. Parce que tu as un parti qui essaie de sortir la tête de l'eau. On s'entend que jusqu'à Noël, dans les projections, on voyait zéro siège pour la CAQ s'il y avait une élection maintenant. Et là, tu as deux candidats à la chefferie qui vont vouloir essayer de remonter le parti. Puis là, tu as des annonces comme ça négatives presque à chaque semaine de ténors, de ministres actuels ou anciens qui disent « Moi, je ne me représenterai pas à la prochaine élection. » C'est sûr que ça donne une impression de fin de régime qui vient un peu devenir un obstacle à essayer de remettre le parti à flot.
Préféré avant, toi, en termes de stratégie politique ou après la course?
Peut-être plus après, parce que ça aurait donné la chance à un nouveau chef ou à une nouvelle chef d'annoncer peut-être d'autres candidatures puis d'essayer de remonter, d'aller chercher quelques points dans les sondages. Mais en même temps, chacun prend sa décision personnelle. Est-ce que je peux reprocher à Geneviève Guilbeault d'avoir annoncé ça quand elle l'a fait? Bien sûr que non. Est-ce qu'on reproche à Caroline Proulx de l'avoir fait? C'est une décision qui est personnelle, mais il faut quand même se dire que pour un nouveau chef ou une nouvelle chef, c'est tannant d'avoir une mauvaise nouvelle par semaine comme ça, puis ça donne une impression que ça va pas bien.
T'as entièrement raison. On se garde le cas de Mélissa Généreux dans le parking, comme je m'appelle à dire. Danse, parce que je vais vouloir entendre ton opinion là-dessus sur ces candidats qui magasinent un parti politique. Quand le parti politique dit « Sais-tu quoi? On n'est pas dans la même, dans le même alignement. On n'a pas la même pensée. » Que ce candidat-là sort pour parler contre ce parti politique-là alors qu'il voulait l'intégrer. Je trouve toujours ça drôle.
On s'en reparlera parce que dans les prochains mois, évidemment, les candidatures vedettes et tout ça, ça va faire couler beaucoup d'angle.
Exactement.
Puis le PQ qui est en train de redescendre un peu dans les sondages, est-ce qu'il y a des candidats qui vont choquer en bon français? Donc, à suivre.
C'est une bonne question. On s'en parle de ceci cette semaine. C'est sûr. Antonine, on t'écoute dans le retour avec Audrey et Véro à compter de 14h. Dans un instant, à Boulevard 101, l'émission On en jase, Éric Ouellet, notre spécialiste en conflit militaire, va venir nous parler évidemment de ce qui se passe présentement sur le terrain en Iran. Et Gabriel Giguère, analyste politique senior à l'Institut économique de Montréal, va venir nous dire, lui, qu'est-ce qu'il faut s'attendre à quel prix du gaz? Parce que le prix du gaz, c'est nos poches, puis ça va augmenter.
Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on doit stresser? Est-ce qu'on doit se calmer?
Exactement. C'est de tout ça qu'on va parler dans un instant à Boulevard 101, l'émission On en jase.
On en jase.